Je crois que c'est à nous. Bonjour à chacun d'entre vous. Merci d'être présent pour ce webinaire réalisé conjointement entre PwC et NeoBrain. Et c'est un sujet qui vous passionne visiblement, celui de la transformation des métiers au sein de la direction financière, parce que nous sommes aujourd'hui 900 personnes à suivre ce webinaire. Je suis Vincent Ogoma, je travaille au sein du marketing chez NeoBrain et je suis accompagné de deux speakers, Raphaël et Paul, à qui je vais donner la main pour se présenter. Nous avons aujourd'hui une heure ensemble, dont 10 minutes pour répondre aussi à vos questions. Je vous laisse la main, Raphaël et Paul.
Oui, merci beaucoup Vincent pour cette introduction. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Raphaël Sourdi, je suis associée chez PwC dans une équipe qui s'appelle Workforce, qui traite en fait de tous les enjeux humains liés à la transformation.
Bonjour à tous, je suis Paul Courteau, le cofondateur et CEO de NeoBrain, qui est une solution de gestion des talents et des compétences pour les grands groupes. Et notamment, j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Will AI Replace Me ?», qui a vocation à analyser l'impact de l'IA sur différentes fonctions, y compris la fonction finance.
Très bien, merci. Pour démarrer, eh bien, on va vous souhaiter une bonne année. C'est vrai que c'était une année un petit peu assez imprévisible et je pense qu'on peut prédire que 2024 le sera tout autant, du même acabit. Quoi de mieux que démarrer ensemble en prenant un petit peu de recul sur vos métiers, sur les compétences, la manière avec lesquelles ils vont évoluer et puis vous fournir aussi un parcours, nos conseils, puisque PwC et NeoBrain évoluent souvent conjointement pour accompagner les clients dans ces transformations. Le menu du jour, donc nous avons trois étapes. Tout d'abord, on va avoir la chance de pouvoir aussi avoir quelques éléments de l'étude CEO, c'est la 27e étude CEO Survey de PwC. Donc, ce sera la première étape où on va regarder un petit peu ces grandes préoccupations des dirigeants. Ensuite, on pourra vraiment aller dans le cœur du sujet, qu'est la transformation des métiers pour la direction financière, que ce soit la RSE, mais surtout l'IA. C'est ce qui, visiblement, vous passionne le plus parce qu'on a reçu déjà pas mal de questions en amont. Et puis, dans un troisième temps, on pourra donc dresser ensemble une feuille de route, comment se mettre en mouvement ensemble. Alors, pour démarrer, je vais poser la question à Raphaël. Alors, quelles sont aujourd'hui, de cette étude, justement, les grandes tendances, les préoccupations des dirigeants ?
Merci Vincent. Donc comme tu le proposais, je vais effectivement m'appuyer sur la dernière CEO survey réalisée par PwC à l'automne 2023, où nous avons l'opportunité d'interroger près de 5000 dirigeants français et dans le monde également sur leur vision de l'évolution de l'économie mondiale et française. Donc, ce qui est intéressant peut-être de noter dans cette étude, c'est tout d'abord que nos dirigeants, ils affichent un peu plus d'attentisme que l'année dernière, mais cependant, ils sont quand même plus optimistes, puisqu'on a quand même 30% des répondants qui estiment que qui s'attendent, je dirais, à une évolution de la croissance sur l'année 2024. Également, si on compare par rapport à l'année dernière, ils sont un peu moins cette année, à savoir un peu moins de 50% à s'attendre à ce que la croissance se dégrade, alors que l'an dernier, on était à 2/3. Donc certes, on reste dans des chiffres qui ne sont pas qu'optimistes, mais on voit que la tendance s'améliore. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder plus précisément quand on leur pose la question sur la vision de leur propre entreprise, notamment dans une perspective à 12 mois, où là, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus confiants, puisqu'on a 33% des répondants qui sont extrêmement confiants sur l'évolution de la croissance et de la croissance de leur propre entreprise, et que finalement, seulement 15% sont à un niveau de confiance faible. Donc, ce qui est intéressant, c'est finalement, si on regarde un peu cette évolution et ces chiffres à date, on constate une grande résilience de la part de nos chefs d'entreprise, notamment chefs d'entreprise français, également une lucidité, et aussi une meilleure capacité à s'adapter à l'ensemble des crises, notamment les crises qu'on croise depuis celle du Covid et toutes les crises qui depuis s'enchaînent, je dirais malheureusement. Donc peut-être, si on poursuit sur cette discussion, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, quand les entreprises arrivent à surmonter de telles crises et qu'elles arrivent à faire face aussi à l'enchaînement des différents chocs qu'on ne peut pas toujours anticiper, je pense que le Covid est un exemple flagrant, on gagne aussi en confiance dans sa capacité d'adaptation. Et c'est aussi ce que ressort de cette étude, c'est pour les dirigeants, l'importance et l'urgence de se transformer, une urgence qui devient vraiment réelle. Donc, c'est ce qu'on voit dans ce chiffre-là et pourquoi j'insiste là-dessus. On est aujourd'hui à 60% des dirigeants qui estiment que l'organisation, si elle ne se transforme pas, si le business model n'évolue pas et n'est pas repensé, les organisations disparaîtront d'ici 10 ans. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que l'an dernier, ce chiffre était à 40%. Donc, on a une très forte évolution de ce chiffre par rapport à l'année dernière. Et également, en comparaison avec la moyenne mondiale, la France est à 60%. Le reste des dirigeants mondiaux est à 45%. Donc, on a aussi une vraie nécessité côté français à penser cette transformation. Peut-être un point avant de passer à la suite. Là, les facteurs en fait, principaux hein, de ce besoin de transformation, quand on demande aux dirigeants, ils sont de trois. Le premier facteur qui remonte en top 1 sont vraiment les obligations réglementaires en France qui doivent être mises en œuvre et qui donc, nécessitent d'adapter les business models. Le deuxième facteur, très important également, les préférences des consommateurs, donc comment je m'adapte aussi aux attentes de mon marché. Et enfin, le troisième facteur, et ça va être faire l'objet notamment de nos discussions aujourd'hui, les changements technologiques avec l'IA qui est évidemment citée en tête de ces changements et qui doit être intégrée dans l'entreprise. Il y a également les changements climatiques qui arrivent en top 4, mais qui restent importants et notamment sur lesquels les dirigeants ont déjà lancé des actions, donc ils ne le mettent pas obligatoirement dans leur top 3 à date. Ces changements qui nécessitent de repenser des business models, ils vont aussi nécessiter de repenser finalement la vie des collaborateurs et comment ces collaborateurs vont être impactés. Et je vais laisser Paul vous en parler.
Ouais, donc on voit qu'il y a une prise de conscience là, notamment des dirigeants français. Ce sont des choses qui sont assez lourdes. Est-ce que Paul, toi, tu as des choses un petit peu plus, dirais, rassurantes à nous transmettre?
La question, je pense que la question que tout le monde se pose, surtout face à l'IA, pour vous partager mon expérience, la première fois que j'ai posé des questions à ChatGPT, je me suis vraiment posé la question de mon métier en me disant est-ce que ChatGPT va me remplacer? Et en fait, la réalité, quand on regarde l'impact de l'IA et des technologies, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui titrent, je pense à Goldman Sachs, qui titrerait 300 millions d'emplois vont être détruits. Entre autres, je pense que vous avez lu beaucoup de littérature sur le sujet. Une réalité, quand j'ai écrit mon livre, je me suis demandé si on était capable de prédire correctement le futur avec ces études. La réalité, ce que je me suis rendu compte que dans le passé, parce qu'on ne peut pas forcément regarder dans le futur, donc je me suis regardé dans le passé ce que ça avait donné, je me suis rendu compte qu'en fait, on est assez bon pour prédire les métiers qui vont disparaître. En revanche, on n'est pas très bon pour déterminer les métiers qui vont se créer. Parce que, tout simplement, et notamment en ce moment sur l'IA, parce que nous sommes au début de la découverte des cas d'usage et de ce qui apporte vraiment de la valeur ou non. Et donc, un élément de réassurance, c'est que quand on regarde en arrière, 60% des emplois aujourd'hui n'existaient pas il y a 80 ans. Et d'ailleurs, ce chiffre, c'est la deuxième page de l'étude de Goldman Sachs qui explique que 300 millions d'emplois vont disparaître. La réalité, c'est que la deuxième page montre justement, modère ce propos, en expliquant que justement, on a beaucoup de difficultés à identifier les métiers qui vont se créer, ce qui montre toujours des destructions d'emplois importantes. La réalité, et je pense que c'est l'enjeu absolument majeur, et notamment pour la fonction finance, et je pense notamment aux grands groupes, quand une partie, notamment pour les centres de services partagés, qui peuvent être le cas dans beaucoup de grands groupes, c'est que les endroits où les emplois vont disparaître ne sont pas forcément aux mêmes endroits, en l'occurrence, que les emplois qui vont se créer. Et je pense que ça fait partie des grands enjeux. C'est juste que oui, il y aura des mouvements absolument massifs de création et de suppression d'emplois. Et donc, la clé va être effectivement dans le fait de trouver la passerelle entre les deux, et notamment quand les deux ne se trouvent pas physiquement sur le même lieu. La question, ça, c'est une statistique rassurante. En revanche, Raphaël, comment est-ce que les salariés, quel regard est-ce qu'ils portent, eux, sur le monde du travail?
Merci beaucoup. Donc effectivement, on a interrogé les dirigeants, mais on a aussi interrogé les collaborateurs. Donc on a une étude chez PwC qui s'appelle l'étude Hobbs & Fears, qui a été réalisée également en 2023 auprès de près de 50 000 collaborateurs. On leur a posé un certain nombre de questions et qui nous permettent en fait de voir finalement quelle est leur propre vision du futur du travail face également à ces changements et à ces crises que nous croisons tous actuellement. Donc première question, alors heureux, la question sur la satisfaction des collaborateurs français par rapport à leur travail, on est plutôt en augmentation entre 2022 et 2023, donc c'est important de l'avoir en tête, même si on a quand même également un taux de burn-out qui augmente, donc c'est quand même une donnée intéressante à avoir en tête, puisqu'un collaborateur sur cinq dit avoir une charge de travail trop élevée, donc c'est quelque chose qui, notamment depuis le Covid, qu'on a, je pense, tous pu constater. Pardon. La deuxième question, c'est par rapport à la grande démission. Rotation. Donc, la réponse, c'est que c'est structurel et surtout que c'est à la main des collaborateurs. Ce dont on se rend compte, c'est que 34% des collaborateurs disent vouloir demander une augmentation de salaire en 2024 et on en a 24% qui souhaitent changer d'employeur. Donc, en fait, je dirais que la balle est dans leur camp et que c'est eux qui ont un peu la main par rapport à ces arrivées et départs dans les entreprises. Et je pense qu'on le ressent tous, notamment en tant que manager. Le troisième point, évidemment, sur l'IA. Alors, la réponse est intéressante aussi puisque on en conclut qu'ils n'ont pas peur justement de l'IA, malgré tout ce qu'on peut entendre sur effectivement le risque de remplacement des postes par l'IA. Au contraire, quand on regarde les chiffres, on a près de 20% des salariés qui sont convaincus que l'IA va les aider dans leur travail, va les aider à être plus productifs, à être plus efficaces. On en a quasiment le même pourcentage qui sont enthousiastes avec l'opportunité d'apprendre, de développer de nouvelles compétences avec l'arrivée de l'IA. Et on en a à peu près 15% qui sont aussi convaincus que l'IA va offrir de nouvelles opportunités professionnelles. Je voyais dans les questions qu'il y avait effectivement des questions sur les impacts de l'IA sur les métiers de la finance. On y viendra tout à l'heure. Mais au-delà d'impacter les métiers actuels, c'est aussi l'opportunité de créer de nouveaux métiers. Et c'est exactement ce qui remonte de cette étude. Peut-être un autre point, effectivement, sur le... Un autre constat, c'est le fait d'être acteur de ses compétences, donc avec des salariés qui attendent effectivement que leur employeur leur donne l'opportunité de pouvoir développer de nouvelles compétences, notamment autour de la flexibilité, de l'adaptabilité, aussi beaucoup de compétences de compétences collaboratives, mais aussi des compétences techniques à près de 50%, et ça embarque notamment notre sujet de l'IA. Sur le modèle de l'organisation, je passe rapidement, mais on a vu qu'effectivement, les dirigeants à 60% disaient que les modèles devaient être repensés et on retrouve 50% des salariés qui sont également convaincus que le modèle doit changer. Notamment, c'est les salariés qui sont plutôt des salariés de moins de 30 ans, donc qui sont eux-mêmes prêts à évoluer avec l'évolution des organisations dans lesquelles ils travaillent. Et un dernier point sur l'ESG, à quand un collaborateur full RSE? Clairement, les réponses des salariés nous disent que c'est maintenant que les choses doivent se faire, puisqu'on a près de 60% des salariés qui estiment que l'entreprise a la responsabilité de lutter contre le changement climatique. Donc, on l'a vu, c'est aussi une priorité des dirigeants, même si elle arrive en quatrième position, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont lancées. Cependant, ça reste aussi une priorité pour les collaborateurs aujourd'hui.
Très bien. Alors, deuxième partie, on va pouvoir maintenant se focaliser sur la direction financière. Raphaël, qu'est-ce que tous ces facteurs que tu viens d'énumérer finalement changent pour les services financiers et quelles sont un petit peu les priorités que tu vois du côté de PwC?
Alors, donc là, je m'appuie sur une troisième étude que réalise PwC. On fait beaucoup d'études chez PwC. Donc là, c'est l'étude qu'on fait spécifiquement auprès des directeurs financiers sur leurs priorités. Donc, c'est une étude qui également vient d'être publiée sur les priorités des DAF sur 2024. Donc, en fait, si on regarde leurs réponses par rapport à ces questions, c'est intéressant de voir que finalement, pour eux, le contexte aujourd'hui, donc très mouvant, sur les plans économiques, réglementaires, également technologiques. Pour eux, c'est une opportunité finalement de capitaliser sur leurs forces actuelles pour vraiment faire évoluer la fonction finance, pour vraiment l'ancrer pleinement dans le business, donc être vraiment le business advisor du business qu'il supporte, et puis rendre aussi le métier de la finance plus attractif. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils sollicitent et qu'ils mentionnent dans les réponses. Et donc finalement, pour eux, il y a trois leviers de transformation qu'il faut suivre pour relever ces différents défis. Le premier, c'est vraiment le sujet de la restructuration organisationnelle. Donc là, on retrouve finalement ce que nous disaient les dirigeants. Il faut se repenser, il faut faire évoluer nos organisations avec ces enjeux de durabilité, mais aussi d'être capable aussi de s'adapter en fonction de l'évolution du contexte et de s'adapter rapidement. Donc c'est vraiment comment devenir résilient et agile face à la permacrise. On a un deuxième enjeu qui est vraiment sur l'évolution des modèles de pilotage de la performance, notamment avec la réglementation CSRD qui accélère finalement ce besoin et comment on adopte finalement des approches plus agiles et on intègre des outils d'analyse avancées pour une prise de décision plus éclairée avec ces enjeux de durabilité pour une performance globale. Donc ça, c'est vraiment le deuxième enjeu. Et le troisième enjeu, c'est l'innovation grâce aux nouvelles technologies. Le levier technologique est incontournable pour notamment automatiser les processus et avoir une exploitation plus efficiente de la donnée. Et évidemment, l'IA a un rôle clé à jouer dans ce troisième levier. Si je me concentre maintenant donc, sur leurs priorités, donc vous avez vu, on a posé aussi aux dirigeants quelles étaient leurs priorités. Là, si on regarde les priorités des directions financières pour 2024, donc il y a trois grandes priorités qui ressortent. La première, c'est vraiment face à la pression économique, la gestion du cash, des financements et de l'investissement. C'est vraiment la première priorité qui remonte. Je reviendrai très rapidement ensuite sur les petits schémas en dessous. La deuxième priorité, c'est le pilotage de la performance. C'est ce que je vous disais avec cet enjeu d'avoir un pilotage de la performance durable et que ce pilotage permette vraiment de se concentrer sur la stratégie de croissance de l'entreprise. Et la troisième priorité, c'est le besoin accru de nouvelles compétences et c'est tout ce qui est gestion des talents. On va y revenir juste après. Je voudrais juste vous commenter les petits graphes en dessous rapidement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le pilotage de la performance était quand même le top 1, qu'on soit en grand groupe ou en ETI depuis 2 ans et que finalement, en 2024, il prend la seconde place. Laisser la première place, je le dirais comme ça, à la gestion du cash. Donc, on voit finalement un switch voilà, des priorités pour les DAF. Et ce qui est très intéressant également, c'est qu'on voit que sur le sujet de la gestion des talents, qui était plutôt, je dirais, tout en bas de la liste, donc était la sixième priorité sur les dernières années, est en train en fait de faire une remontée assez fulgurante, notamment si on se projette à 3 ans, puisqu'il devient la priorité numéro 1 à 3 ans pour les grands groupes. Pour les ETI et les PME, on a également le sujet de la stratégie de développement qui vient s'intercaler, je dirais, dans ce top 3. Mais on voit quand même que le sujet de la gestion des talents devient prioritaire pour les DAF et plus généralement pour les dirigeants. Donc, un point qu'on peut se demander maintenant, c'est ces nouvelles compétences qui vont être nécessaires effectivement pour supporter les transformations aussi bien de l'entreprise plus généralement, mais aussi des directions financières. La question, c'est où est-ce qu'on trouve ces compétences? Ce qui est intéressant de voir dans ce graphe, c'est que finalement, quand on pose la question aux directeurs financiers, pour la deuxième année consécutive, ils nous disent qu'ils préfèrent privilégier la formation des collaborateurs déjà en place sur les différents postes, plus que le recrutement. Donc ça, c'est intéressant parce que ça reflète aussi la forte tension sur le marché du travail, notamment sur des profils un peu techno-financiers qui vont être de plus en plus les profils qu'on va rechercher au sein des directions financières. Et puis, c'est aussi intéressant parce que ça montre aussi la volonté d'enrichir les parcours de carrière des collaborateurs et de leur proposer finalement des opportunités de développer des nouvelles compétences au-delà de leurs compétences d'origine. Et puis enfin, les nouvelles technologies, je pense que c'est important de rappeler que ça permet aussi aux directions financières de gagner en efficacité, mais également en attractivité, qui était également un des enjeux de la direction financière, comment être plus attractive et certes développer des compétences internes, mais aussi recruter quelques profils à l'externe, puisqu'on a quand même 23% de recrutement externe.
Et l'enjeu, je pense que l'enjeu absolument clé, c'est de se dire finalement pourquoi cette tendance, au-delà des cycles économiques classiques, on voit des tensions, on voit du développement économique et donc forcément des tensions sur le marché. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que quand on s'intéresse à la durée de vie moyenne d'une compétence technique, elle était de 30 ans en 1987 contre 2 ans aujourd'hui. Ça veut dire, et ça c'est un point important, c'est une étude de l'OCDE qui partageait récemment que dans une carrière de 40 ans, un salarié va en moyenne devoir renouveler 8 fois l'intégralité de ses compétences. Ça veut dire que les compétences, donc l'obsolescence s'accélérant, il est absolument nécessaire pour les entreprises, c'est même un des facteurs clés de succès de résilience des entreprises, de savoir construire les compétences en interne, parce que la réalité, c'est qu'aller les chercher sur le marché, elles deviendront tellement rares, les compétences disponibles sur le marché deviendront tellement rares qu'elles deviendront très chères, et donc ça pose une question à cette compétitivité de l'organisation. Donc la capacité à créer ces compétences en interne devient absolument fondamentale. Et pour illustrer ça de manière un peu plus concrète, je vais prendre un exemple, celui de Natixis, l'exemple de Natixis, qui donc a deux modèles principaux, qui a fait une transition entre deux modèles. Le modèle historique qui était centré sur l'emploi, et ça c'est un point absolument majeur, donc partant du principe que l'emploi est ce qui relie le salarié au travail qui doit être réalisé, donc il fonctionnait très bien en disant je cherche tant de contrôleurs de gestion et j'en avais suffisamment sur le marché qui possédaient les bonnes compétences, donc ça fonctionnait très bien. Et en fait, au moment où la compétence devient obsolète de plus en plus vite, ils ont fait une transition vers un modèle qui est centré sur le salarié, qui veut dire conceptuellement que le salarié est le centre de l'organisation. Et on part du principe que c'est le salarié qui mobilise un set de compétences uniques pour réaliser justement le travail qui doit être fait. Et donc ce modèle centré sur le salarié fonctionne beaucoup mieux quand les salariés et les compétences sont rares. Ce que ça a permis, en l'occurrence pour Natixis, c'est d'aller donc faire émerger des compétences en interne. Donc en augmentant, en passant grosso modo d'un poste sur 8 pourvu par un candidat interne à un poste sur 2, donc en venant augmenter la proportion de candidats et de postes pourvus par des candidats internes. Ça a aussi la vertu, et quand je fais le lien avec ce que mentionnait Raphaël, avec l'attente des salariés sur le fait d'être acteurs de leurs compétences et de leur carrière. Le fait d'augmenter les opportunités internes en favorisant justement les candidats internes, ça permet de répondre et d'apporter un élément de réponse concret à ce besoin. Donc cette transition vers un modèle centré sur l'emploi, vers un modèle centré sur le salarié, et donc basé sur les compétences, est un des leviers absolument majeurs pour réussir justement à inventorier ces compétences et à les créer en interne. Et donc face à la question de l'IA, ce qui est important, parce que forcément la question, si on rentre maintenant sur comment est-ce qu'en tant que direction financière, vous arrivez à vous saisir de l'IA, il faut avoir en tête que jusqu'à présent, l'IA était souvent, les métiers de l'IA et l'utilisation de l'IA étaient souvent réservés à des populations expertes. Donc on avait le machine learning, dont notamment le deep learning, qui était un des sujets majeurs des 5 dernières années, qui a été clé, mais surtout centré sur les populations expertes de l'IA, les data scientists, les data engineers, qui construisaient ces modèles et qui les mettaient à disposition. Aujourd'hui, l'IA générative, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on est 900 aujourd'hui? C'est parce que l'IA générative est venue démocratiser l'accès à l'IA, et notamment, et c'était la magie d'OpenAI avec ChatGPT, qui a donné une interface extrêmement simple qui permet à tout le monde finalement d'utiliser l'IA. Et donc face à ça, Raphaël, une nouvelle étude, en tout cas le lien avec une des études, quel est l'impact de l'IA générative aujourd'hui, la place de l'IA générative dans l'entreprise?
Merci Paul. Alors je vous rassure, c'est également l'étude sur les CEO, hein, celle qui vient d'être publiée. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, il y a 78% des dirigeants qui n'ont pas encore vraiment adapté l'IA générative dans l'ensemble de l'entreprise. Donc, c'est un mouvement qui se lance, mais voilà, quelque chose qui est encore en cours, sachant que la moyenne mondiale est à 68%. Donc finalement, on constate un léger retard français, si je peux me permettre de le dire comme ça, par rapport au reste du monde. Ce qui, on sait que parfois les Français sont peut-être parfois un peu plus pragmatiques et préfèrent tester et faire des use cases et voir comment ça se passe avant de généraliser. Donc ça peut expliquer ce chiffre. Cependant, on constate aussi qu'il y a plus de 50% d'entre eux qui estiment que l'IA sera génératrice de création de valeur. Donc ça, c'est un point effectivement clé, ce qui n'est pas toujours le cas par rapport à l'arrivée de nouvelles technologies, hein. Donc là, l'arrivée de la Gen AI, elle est quand même vue de manière très positive, et on l'a vu tout à l'heure, et par les collaborateurs, et par les dirigeants. Après, à nous, je dirais, de bien l'intégrer dans le quotidien des collaborateurs. Et puis enfin, le dernier point, c'est qu'effectivement, on a 2/3 des dirigeants qui sont conscients que cela aura un impact sur les compétences. Et donc, d'où l'importance, effectivement, de lancer des premières actions sur ces sujets-là pour acquérir ces nouvelles compétences et notamment les développer en interne. Après, si je reviens peut-être un peu plus sur les différents... Le petit comparatif qu'on a fait au niveau des secteurs, en fait, ce qui est intéressant, hein, sur ce graphique, donc c'est finalement on a essayé de positionner les différents secteurs d'activité par rapport à l'impact que l'IA peut avoir sur les secteurs. Donc, on a à la fois des... le niveau de disruption lié à l'arrivée de l'IA et aussi le niveau d'adoption plus ou moins facilité de l'arrivée de l'IA. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, tous les secteurs vont bénéficier de la Gen AI, comme je pense que ça, on est tous convaincus, avec certains qui auront une amélioration plus ou moins forte de leur marge opérationnelle par rapport à d'autres, en fonction de l'usage qu'ils vont en faire. Donc, en fait, la facilité d'adoption, ce qui est intéressant, c'est qu'elle met en perspective différents cas d'utilisation et les efforts à déployer sur la gestion de données. Donc, en fonction effectivement de là où on veut se placer ou là où on souhaite se placer, l'investissement ne sera pas obligatoirement le même. Et donc, avec des ajustements au fil du temps, Avec un point important aussi sur lequel on insiste beaucoup, et c'est le cas, je pense, aussi pour les directions financières, c'est vraiment la surveillance éthique et réglementaire de ce qu'on met en place, s'assurer que ce qu'on met en place, voilà, est bien conforme, est bien éthique, et voire est bien aligné avec les valeurs de l'entreprise, si je pousse même le sujet. Cependant, on voit qu'il y a certains secteurs qui vont plus bénéficier de l'IA que d'autres. Donc, si, sans prendre un exemple peut-être particulier, mais c'est vrai que quand on a des, par exemple, des modèles de services qui sont par exemple basés sur le service client, le chatbot, qui est quand même une des nouveautés que l'IA apporte, qui pousse le chatbot encore plus loin que ce qui a pu exister, ben, on voit que tout ce qui est tourné vers le client pourra s'améliorer via notamment l'utilisation des chatbots et donc apporter un service au client de meilleure qualité. Cependant, pour la fonction finance, on est plutôt sur des choses peut-être plus standardisées. Donc, c'est vrai que là, on est plutôt une répartition par rapport aux produits qui est porté par les différents secteurs. La direction financière, peut-être quel que soit le secteur d'activité, aura les mêmes opportunités finalement liées à l'IA. Je propose peut-être qu'on passe à des choses peut-être plus concrètes avec Paul sur ce sujet.
Concrètement, et ça c'est un chiffre, si vous devez retenir un chiffre, 80%. 80%, ça veut dire que 8 cas d'usage sur 10 en entreprise de l'IA générative sont en réalité réalisés par les salariés à l'insu de leur entreprise. Et ça, je pense que c'est un point majeur à avoir en tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, le cas d'usage le plus présent de l'IA générative en entreprise, c'est je suis salarié, je rentre le soir chez moi, je suis fatigué, je sens que j'ai encore une pile de travail à faire, je vais faire rédiger mes emails par ChatGPT, je vais faire peut-être synthétiser un compte-rendu de réunion. Voilà. Ça, c'est le cas d'usage principal aujourd'hui, il est celui-ci. Donc ça, c'est le premier point. Ça implique un enjeu majeur pour la direction financière qui a un enjeu de confidentialité des données, de sensibilité de l'information. L'enjeu majeur, c'est que cette donnée, elle fuite très concrètement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand les salariés utilisent les modèles ouverts de ChatGPT, pour prendre cet exemple très concret, qui est aujourd'hui le principal cas d'usage dans les entreprises, enfin la première IA utilisée, c'est que, et je vais prendre le parallèle d'une grosse compagnie aérienne, d'un gros constructeur d'avions américain, qui entre la version 3.5 de ChatGPT et la version 4, a vu tous ses plans d'avions accessibles publiquement. Comment ? Bah, simplement, finalement, parce que des gens avaient mis ces plans d'avions sans doute dans ChatGPT, avaient demandé de tirer des conclusions, de rédiger des synthèses, etc. Et donc, en faisant ça, comme les modèles de ChatGPT s'améliorent dans le temps, et réentraîne sur la base des conversations qui ont eu lieu, ces données fuitent. Donc ça, c'est un point absolument majeur pour la direction financière, c'est de faire attention. Donc la première action très concrète, si vous voulez repartir avec quelque chose de concret à mettre en place, c'est, et ça, c'est une grande tendance qu'on voit émerger, c'est de mettre en place ces fameux safe ou trusted ChatGPT, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle maintenant des copilotes. Parmi les plus connus en ce moment, on a notamment Microsoft Copilot qui est sorti, on a ChatGPT qui est sorti de ChatGPT Teams, qui est une version protégée de ChatGPT, qui est un peu plus chère forcément, mais qui est une version protégée. On a Google Duo ou parmi d'autres. Et donc ces systèmes-là vous permettent d'avoir une sorte de l'équivalent d'un ChatGPT, si je dois résumer les choses, posé sur vos serveurs. Ce qui vous permet donc d'ouvrir et de permettre aux salariés de bénéficier de cet outil de productivité et de confort et de qualité de vie au travail, tout en protégeant vos données extrêmement sensibles. Donc ça, c'est le premier sujet. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que l'IA rentre dans l'entreprise au travers de trois vagues, et c'est la manière dont on voit les choses. C'est que la première vague, ce sont effectivement les salariés d'abord qui s'en emparent. Et ils s'en emparent surtout pour gagner en confort et en qualité de vie au travail, en déplaçant les tâches chronophages, effectivement la peur du mail blanc, de savoir qu'est-ce que je dois répondre, est-ce que j'ai le bon ton, etc. Oh, je le donne dans ChatGPT, il me rédige une réponse. Ça, c'est concrètement la première vague. La deuxième vague, c'est l'IA qui intervient cette fois-ci dans la manière dont vous délivrez vos services, internes en l'occurrence, pour la fonction finance. Et on va revenir sur les exemples et les typologies d'IA utilisées en fonction des cas d'usage que vous souhaitez cibler. Et enfin, la troisième vague, c'est cette fois-ci, c'est l'intégration de l'IA dans les services délivrés aux clients, dans les services ou produits délivrés aux clients. Donc le premier, c'est finalement les salariés. Le deuxième, c'est les salariés plus l'organisation qui en bénéficie. Et le troisième vague, c'est les salariés, l'organisation et ses clients. Donc, c'est important de comprendre l'intégration de l'IA, finalement, de l'extérieur vers l'intérieur de l'entreprise, au plus près derrière des services qui sont délivrés auprès de vos clients.
Est-ce que tu peux maintenant un petit peu détailler justement ces différentes formes d'IA et la manière avec laquelle elles s'intègrent pour la direction financière ?
Exactement, pour rentrer dans le concret sur ces différents cas d'IA, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, avec l'avènement de l'IA générative, on a toujours tendance à penser que l'IA générative est la réponse à tous nos besoins. Ce qui est important, je le synthétise de manière un peu grossière, mais avec deux typologies, l'IA traditionnelle telle qu'on la connaissait auparavant, c'est-à-dire des modèles spécifiques entraînés pour des tâches particulières, l'IA générative qui est donc cette fois-ci entraînée sur des corpus de données extrêmement larges et donc capable de couvrir un pan de tâches assez variées. Si je prends l'avantage, les cas d'usage de l'IA traditionnelle, aujourd'hui qu'on voit dans les fonctions financières, le cas d'usage qui ressort le plus souvent, c'est d'abord l'évaluation de la solvabilité, le rapprochement et l'identification des irrégularités, l'examen des catégories de coûts, la conformité légale et la détection de la fraude. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que l'IA traditionnelle a un avantage par rapport à l'IA générative à l'autre bout, ou je vais le dire dans l'autre sens, pour marquer davantage, l'IA générative a un problème par rapport à l'autre, c'est sa qualité. Pourquoi ? Aujourd'hui, il y a une étude chinoise qui montrait que 3 fois sur 10, l'IA générative va se tromper. La qualité est de 70%. 70% quand, pour les cas d'usage qui nécessitent une précision absolument extrême, l'IA générative n'est sans doute pas la meilleure solution à apporter. En revanche, l'IA générative va vous apporter du confort au quotidien sur la rédaction de documents. Je pense notamment à la relation avec les actionnaires, toute la communication financière, par exemple, la rédaction de documents, là, ça va apporter beaucoup d'appui. Construction de rapports automatisés, la modélisation de scénarios financiers qui permet de donner des grandes tendances. Encore une fois, là, on a donc un enjeu de précision qui est peut-être un peu moindre parce qu'on doit donner des grandes tendances. Et enfin, ça va être un outil de veille absolument majeur, je pense, pour la fonction finance qui doit être un business partner, qui doit être un business partner au service du développement de l'entreprise. Et en fait, ça permet à la fonction finance d'avoir un outil de veille et sur les tendances business que l'entreprise vit, qui est absolument génial. Ce qui est intéressant, c'est le mix entre les deux typologies d'IA. Et là, vous allez me dire, j'espère que vous avez suivi ce truc-là, ce qui est important, ce qu'on voit, là où l'IA apporte le plus de valeur ajoutée, c'est quand on mixe les deux typologies d'IA. Pourquoi ? Parce qu'on a une IA traditionnelle qui va être entraînée sur une tâche particulière, comme par exemple, j'aurais entraîné à détecter des irrégularités, par exemple mon IA, sur la base d'un certain nombre d'irrégularités détectées, le système va apprendre et va permettre de les détecter. Mais derrière, l'avantage de l'IA générative, c'est qu'elle va expliquer ce que la première a fait. Et ça fournit un bénéfice, c'est que ça rend l'IA explicable. Et donc ça permet de mieux comprendre comment ce qu'elle est construite et de comprendre les conclusions qui sont tirées. Donc là, on trouve des exemples, des cas d'usage sur les projections des ventes et des coûts avec des explications associées, des systèmes de recommandation, de plans d'action, par exemple, auprès des opérationnels pour identifier, par exemple, je pense aux optimisations de coûts, quels sont les leviers à identifier sur la base de l'ensemble, par exemple, du fichier des écritures comptables, quels sont tous les leviers d'optimisation qu'on peut identifier et fournir ces recommandations à chaque métier. Ça, c'est un des leviers, par exemple, concrets que l'IA générative peut fournir et vous faire gagner du temps. Et enfin, l'identification des risques de la même manière, parce que ça les rend aussi explicites. Maintenant, si on prend, alors là, accrochez-vous bien, si on prend un pas arrière, on a fait un travail de comprendre où est-ce que l'IA générative dans tous les processus, si on prend un zoom sur tous les différents processus que la fonction finance doit opérer, quels sont les processus prioritaires, qu'est-ce que vous devez mettre dans votre feuille de route 2024 si vous cherchez le gain de productivité, d'efficacité le plus important. Et là, il faut comprendre qu'il y a deux, cette fois-ci pas trois vagues, mais deux niveaux de priorité. La première priorité, donc là, vous avez 5 processus qui sont impactés, les opérations financières, notamment donc rédaction de contrats, traitement des factures, révision de grands livres, par exemple, pour citer ces exemples-là, les opérations comptables, notamment la catégorisation des transactions, alors là, ou les processus de rapprochement, alors là, ça fait longtemps que l'IA, vous allez me dire, ça fait longtemps que l'IA commence déjà à faire des rapprochements automatisés, là, on se rend compte qu'on va pouvoir démultiplier encore ce travail grâce aux nouvelles approches d'IA, donc, c'est toujours là où on trouve un gain de productivité important. Donc là, on retrouve notamment la comptabilité qui va être la plus impactée, les processus comptables qui vont être les plus impactés par l'IA. Le troisième, c'est la gestion des risques. Donc, prévoir, expliquer les anomalies, par exemple. Donc là, ça fait partie effectivement du troisième processus qui va être le plus impacté. La fiscalité, pareil, avec la capacité à tenir compte d'une grande quantité de règles, de normes, et d'être capable d'en digérer les substances. Avec un bémol, et là, c'est un point très, très important, je pense, pour la fonction financière. Je vais vous donner un exemple. Cette fois-ci, c'est un exemple qui vient d'un avocat new-yorkais. Cet avocat new-yorkais a rédigé, en l'occurrence, pour sa plaidoirie. Il était sous l'eau. Il a voulu rédiger faire rédiger sa plaidoirie grâce à ChatGPT. Les résultats, c'est que 100% de la jurisprudence utilisée pour faire sa plaidoirie était en fait complètement inventée par ChatGPT. Donc, c'est un des points d'attention. C'est en revanche de bien faire attention, notamment sur ce processus de gestion des risques, de faire attention dans la manière, quand vous utilisez des outils d'IA générative qui sont impulsés par des prompts, ces fameuses questions que vous posez. C'est très, très important de développer une compétence de ce qu'on appelle de prompt engineering pour être capable de limiter ces biais. Enfin, la fiscalité et les différents processus qui font de la fonction finance un business partner, c'est-à-dire fournir des informations sur des prévisions financières, la planification des scénarios, l'intelligence économique. Donc tous ces cinq processus font partie des priorités numéro une. La deuxième priorité, c'est le reporting financier et la gestion de la trésorerie sont les deux processus qui doivent devenir dans le deuxième niveau de priorité quand on fait l'analyse de l'IA et des fonctions sur lesquelles l'impact de l'IA, et notamment de l'IA générative, va être le plus fort.
Je pense que vous disposerez de tous ces éléments dans le mail de remerciement, parce que c'est vrai que c'est un tableau qui est intéressant, mais qui est très riche.
Tout à fait. Et donc, si on prend face à cette question, vous devez forcément vous poser, face à ces différents processus, vous devez forcément vous poser la question, quels sont les métiers qui vont disparaître, quels sont ceux qui vont se créer. Si on veut être concret là-dessus, l'effort de catégorisation doit se faire en quatre scénarios finalement que vous devez regarder. On a les métiers menacés. Ici, notamment le métier de comptable, certains métiers d'analyste. On a des métiers qui sont clairement menacés parce qu'il y a une part significative des compétences et des activités qui peuvent être automatisées par l'IA. Des métiers qui sont complétés. Je pense aux contrôleurs de gestion, la gestion de la trésorerie, par exemple. Donc là, on a vraiment des métiers qui vont être complétés par l'IA. Et en fait, la réalité, c'est que la grande majorité, quand on prend en volume, la grande majorité des métiers de la fonction finance vont être complétés par l'IA. Des métiers protégés, là, parmi lesquels on trouve le DAF, on va trouver des différents métiers sur lesquels il y a un niveau de sophistication, de précision, de nuance qui est absolument qui est majeur pour le succès du métier. Et enfin, des métiers créés. Là, on se rend compte que des métiers créés, alors aujourd'hui, on voit notamment un métier qui se crée, mais alors, attention de ne pas tomber dans l'explosion et dans hype de ce métier qui est celui de prompt engineer. Prompt engineer, c'est le métier de personne qui pose les bonnes questions à l'IA pour obtenir les bons résultats. Aujourd'hui, c'est un métier qui se crée énormément. On voit d'ailleurs qu'aux États-Unis, on a plus de 4000 offres aujourd'hui qui étaient diffusées sur ce métier de prompt engineer, contre une trentaine en France. Donc, aussi faire attention pour la France de garder le rythme. En revanche, ce qu'on voit, c'est que ce métier de prompt engineer, demain, ça va devenir plutôt une compétence qu'un métier à part entière. Voilà. Donc, ça, c'est un point important à garder en tête. En revanche, il existe des métiers qui vont se créer, beaucoup de métiers qui vont se créer autour de l'éthique, autour de l'IA. On a des métiers, d'ailleurs, qui se créent autour de la sociologie. Étonnamment, ça fait partie des métiers qui se créent le plus, et notamment pour comprendre l'impact sociologique de l'IA. Donc, ça fait partie des métiers qui vont se créer en masse. Voilà en deux mots, donc ces métiers catégorisés en quatre typologies. Ce qu'on vous enverra après, on a fait un travail sur une centaine de métiers, cette fois-ci qui couvrent l'intégralité de l'entreprise, sur un site qui s'appelle donc willaireplaceme.com, avec des tirets entre chaque mot, de vous fournir une analyse d'impact sur chacun des métiers. Quels sont les métiers qui vont être les plus impactés et quelles sont les compétences qui vont être résilientes?
Les compétences à risque et les compétences résilientes, ouais, justement. Ouais, ouais. Alors, c'est intéressant parce qu'on a plein de scénarios différents suivant les métiers. Est-ce qu'on peut tout de même dresser une feuille de route commune pour la direction financière et se mettre en mouvement? Je pense que c'est à toi, Raphaël, que je pose cette question.
Merci. Merci, Vincent. Donc, peut-être effectivement, trois éléments clés, hein, enfin, qui nous paraissent clés pour développer la fonction finance et face à tous ces enjeux qu'on vient d'évoquer. Donc, il y a déjà le sujet donc, de développer les nouveaux métiers et les nouvelles compétences pour la fonction des finances. qui sont nécessaires par rapport à ces enjeux-là. Donc, on a des nouvelles familles d'emplois et de nouveaux cadres de compétences qu'il faudra développer avec des capacités aussi appropriées au sein de la finance. Peut-être en termes d'exemples, parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur les exemples un peu concrets, on peut imaginer par exemple des nouveaux métiers autour de contrôleurs d'automatisation, puisque bon, comme disait Paul, hein, c'est bien de mettre en place l'IA, mais il faut aussi s'assurer que l'IA fonctionne bien. Donc sûrement des métiers autour de la, à la fois de s'assurer que l'algorithme, je dirais, de l'IA fonctionne bien, que effectivement ce sont les bonnes données qui sont prises en compte pour faire travailler l'IA, et puis aussi des métiers d'analyse. Finalement, des résultats, notamment de data scientist. On peut aussi imaginer, par exemple, des métiers autour de responsables de la finance numérique, par exemple, ou responsables du reporting durable. Donc ça, c'est des points à prendre en compte, et donc ces compétences à développer, comme on le disait, soit à l'externe, soit en interne. Ça fait un peu le lien sur le deuxième point. Donc effectivement, l'enjeu, c'est aussi de proposer donc des parcours de carrière et ces opportunités de formation pour justement acquérir ces nouvelles compétences pour les collaborateurs. Donc, ces besoins de compétences, ils nécessitent aussi de repenser un peu les programmes d'apprentissage pour développer les bonnes compétences en fonction de ces nouveaux métiers. Et peut-être, par exemple, sur les cursus de formation, quand on réfléchit un peu au type de formation qu'il faudrait proposer, il y a donc, assez naturellement, on pense aux aspects un peu techniques liés à ces nouvelles compétences, mais on veut aussi avoir des besoins de compétences autour de, je l'évoquais tout à l'heure, tous les aspects réglementaires qu'il faut embarquer aussi, notamment au sein de la direction financière, ou encore les aspects plus éthiques, et puis bien comprendre comment finalement on va utiliser l'IA dans son propre métier. Parce qu'encore une fois, il y a des besoins de nouvelles compétences, les métiers vont évoluer, mais après ça ne veut pas dire que les métiers disparaissent, donc c'est plutôt comment l'IA devient finalement une aide dans mon métier. On pense notamment à tout ce qui est réalisation de tâches répétitives, d'analyse ou quoi, c'est peut-être la première chose à laquelle on pense quand on pense à l'IA, c'est comment ça va m'aider effectivement à aller plus vite dans mes analyses ou dans ma compilation de données, ce genre de choses. La question, c'est à quel moment finalement je le fais, comment j'utilise ça et surtout, qu'est-ce que je fais de cette matière et comment je continue à travailler avec cette matière et à me développer sur d'autres compétences plus d'analyse ou de présentation de résultats ou de prospection, ce genre de choses. Et peut-être un dernier point aussi sur la fonction finance, peut-être de manière plus large. Donc, comment on projette finalement cette fonction finance augmentée et flexible? Donc, quand on pense à ces compétences de main, donc on parle beaucoup effectivement de compétences internes. Il y a aussi la question peut-être qu'on peut se poser sur des modèles un peu plus hybrides avec la sous-traitance qui peut être un moyen aussi de pallier à l'absence ou à un besoin de compétences très spécifiques qu'on ne souhaite pas développer dans l'entreprise ou qu'on n'a pas encore développé dans l'entreprise. Et puis aussi des modalités de travail peut-être plus flexibles. Et aussi, comme je le disais tout à l'heure, comment on assure cette collaboration entre l'homme et la machine et comment on prépare notre main-d'œuvre financière finalement pour demain. Donc ça, c'est aussi un point important à avoir en tête. Finalement, de se dire, demain, la fonction financière, l'objectif, c'est qu'elle devienne l'acteur principal des données de l'entreprise et notamment pour la prise de décision. Donc, c'est comment on prépare finalement tous les hommes et les femmes de cette fonction à repositionner la fonction finance au sein de l'entreprise.
Paul, toi, de ton côté, comment est-ce que tu séquencerais cette transformation, cet accompagnement?
Alors, je pense qu'il y a 5 actions à mettre en place concrètement et comment est-ce qu'on accompagne la transition des salariés dans face à l'impact de l'IA. La première, c'est d'acculturer. En fait, avant même de faire une analyse d'impact, c'est d'acculturer. Pourquoi? Parce que je pense, et c'est une partie des questions qu'on retrouve régulièrement, je pense que beaucoup de salariés maîtrisent encore assez peu l'impact réel de l'IA et les capacités réelles. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle sait faire, qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire. Il y avait une étude qui montrait qu'il faut avoir au moins une centaine de conversations avec ChatGPT pour dépasser le niveau débutant et dépasser le niveau débutant d'interaction avec l'IA générative. Donc, ça vous donne cet exemple-là. C'est pour dire, finalement, il faut commencer par acculturer, apporter de la pédagogie, faire des sessions d'acculturation autour de qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce qu'elle n'est pas également, quelles sont ses forces, ses limites, etc. Et de tester des choses. Et donc, c'est là où c'est l'intérêt de cette Trusted ChatGPT ou autres systèmes qui permettent finalement d'avoir un SaaS de test, d'analyse, tout en gardant effectivement le fait de dire c'est bien un test, donc il faut garder un esprit critique extrêmement important parce que ces tests, une partie vont être réussis, une partie vont être échoués. La deuxième, c'est effectivement de faire cette évaluation d'impact sur les tâches, les métiers, les compétences, de définir votre organisation cible et quel impact, quel va être le rôle de l'IA. Et dans ce travail d'évaluation, on se pose beaucoup les questions de l'application de l'IA générative et de où est-ce qu'on veut de l'IA. Je pense qu'il faut se poser la question parfois à l'inverse. Où est-ce qu'on ne souhaite pas d'IA ? Où est-ce qu'on ne souhaite pas d'IA et d'IA générative particulièrement ? Et finalement, de se dire, voilà, quelles sont les zones sur lesquelles on ne souhaite pas d'IA. Et on regarde ça, finalement, le reste, la réalité, c'est que quasiment tout le reste, l'IA va intervenir comme un appui. Mais il faut définir cette zone de protection absolument clé. Et elle est clé, notamment, pour le troisième point, qui est d'accompagner les salariés dans cette transition, dans cette montée en compétences, notamment pour un sujet majeur, c'est que l'introduction de l'IA générative a entraîné un résultat étonnant. C'est une augmentation des risques psychosociaux, une dégradation de la santé mentale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on ne définit pas cette zone de protection, c'est-à-dire quels sont les champs de domaine ou d'activité et de compétences dans lesquels on ne souhaite pas intégrer l'IA, les salariés, qu'est-ce qui dégrade la santé mentale ? C'est qu'ils se comparent en permanence à l'IA. Et on voit tellement d'articles qui sortent, les nouvelles capacités de l'IA, ça paraît tellement, ça fourmille, il y a des choses qui sortent tous les jours. Du coup, les salariés se comparant à ces nouveautés, ça contribue à dégrader la santé mentale. Donc, le rôle du manager pour manager dans un monde avec l'IA, c'est justement de définir une zone dans laquelle on ne souhaite pas d'IA. La quatrième étape, c'est de définir une charte d'utilisation de l'IA. Beaucoup de grands groupes ont commencé à le faire. Je pense notamment à des exemples qui ont été bien structurés, comme Orange, par exemple, sur le sujet. Et notamment, là, il faut faire très, très attention. C'est justement à cet enjeu de comment est-ce qu'on utilise l'IA et notamment les IA qui vont faire fuiter nos données. Donc ça, c'est un point majeur. Et donc ça, c'est la première chose, c'est de définir un cadre d'utilisation de l'IA et d'acculturer aussi au fait que l'IA peut, si elle est mal utilisée, faire fuiter des informations sensibles. Et enfin, la cinquième étape, c'est d'impliquer les différentes parties prenantes. Je pense bien sûr à la DRH qui est absolument fondamentale pour accompagner cette transition des compétences et aider à faire cette transition. La DSI qui va être clé parce qu'il y a un enjeu de mettre en place l'écosystème et l'infrastructure qui va permettre d'y arriver. Le juridique, l'IA générative pose des questions aussi sur les droits d'auteur, par exemple. Donc, ça peut poser des questions là-dessus. Et enfin, bien sûr, les métiers et les opérationnels, mais notamment, et je pense important de ne pas les oublier dans l'équation, les partenaires sociaux qui vont être clés pour accompagner cette transition. Maintenant, si on prend un exemple concret qui va être celui de l'audit et du contrôle, parce que c'est un impact sur les métiers, on va prendre un exemple un peu concret. Vincent, si tu passes au slide suivant, c'est donc, je prends l'exemple de l'audit et du contrôle comptable et financier, un exemple d'une fiche métier. Certaines compétences vont être à risque. On sait qu'il y a à peu près 8 critères importants qui vont permettre de définir si une compétence va être à risque d'automatisation, notamment ou des tâches en l'occurrence, comme réaliser des opérations comptables, contrôler la régularité des états financiers par exemple. Donc ça, on sait que toutes ces tâches-là vont être à risque, assez faciles à automatiser avec les compétences et les capacités actuelles de l'IA. En revanche, si je prends un autre bout, il existe des compétences qui vont émerger, et notamment, je pense au prompting, qui doit faire partie des compétences absolument clés dans lesquelles la fonction financière doit investir et former les salariés, la capacité donc à poser les bonnes questions. Et donc, si on passe... Vas-y, parle.
Ouais, non, c'est... En fait, je me rends compte que le temps avance vite et qu'on a énormément de questions auxquelles on n'a pas répondu, tout en sachant que de toute façon, notre présentation sera transférée, transmise aux éditeurs aujourd'hui. Est-ce qu'on peut peut-être passer, est-ce que ça vous va, Raphaël et Paul, si on passe à certaines de ces questions ?
Allons-y.
Allons-y.
Ouais. Alors, il y avait une question, tu y as répondu, hein, sur tout ce qui est les impacts concrets pardon, sur le métier de la finance. Je pense que là, on a quand même un petit peu fait le tour. Mais finalement, c'est sous quel délai est-ce qu'on peut s'attendre justement à voir ces impacts sur les métiers Raphaël, si tu veux répondre à ça, est-ce que toi-même, en participant, en vivant au quotidien oui, à côté de clients,
je pense que Paul en a parlé tout à l'heure, hein, qu'effectivement, il y avait certains métiers qui allaient être peut-être plus impactés plus rapidement que d'autres. En tout cas, le délai, je dirais que c'est maintenant. On l'a vu aussi dans l'étude hein, initiale de PwC. Déjà, il y a une attente forte des collaborateurs. Et comme on disait, si l'entreprise ne fait rien, finalement, c'est les collaborateurs qui font part eux-mêmes, avec le fameux chiffre de 80% qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, c'est essentiel que les entreprises, finalement, s'emparent du sujet. J'ai aussi évoqué qu'il y avait 78% des dirigeants qui étaient encore en train de se dire il faut y aller, mais comment on va y aller. Donc je dirais que le sujet, c'est peut-être moins le quand, mais c'est le comment. J'espère qu'on a essayé un petit peu d'expliquer aussi le comment avec cette idée. Et là, je m'appuie aussi un peu sur ce qu'on voit nous chez nos clients. Les clients sont aujourd'hui parlent beaucoup du principe des cas d'usage, de finalement je vais tester, je vais voir comment ça fonctionne, je vais le faire sur un sujet, un service, une fonction ou voir une sous-fonction ou un sous-process, enfin voilà, en fonction de ce qu'on décide. Mais c'est vraiment ce principe un peu du test and learn qu'on voit de plus en plus dans les entreprises. Ça, c'est plus pour le côté évolution des métiers. Par contre, ce qu'on voit aussi en parallèle, c'est une tendance vraiment à l'awareness de manière plus générale de l'ensemble des collaborateurs sur le sujet de l'IA. Paul l'a aussi évoqué. La première chose, c'est peut-être que chacun comprenne, enfin, finalement, c'est quoi l'IA ? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Qu'est-ce que je n'ai peut-être pas le droit de faire ? Notamment pour une direction financière avec tous les enjeux de confidentialité des données. J'ai vu qu'il y avait quelques questions autour de ce sujet-là. Donc, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire ? Qu'est-ce qu'on me met à disposition ? Est-ce qu'on me met à disposition des outils internes et dont je suis sûre qu'effectivement, le côté confidentialité est respecté ? Et ensuite, comment je réfléchis à l'utilisation de ces outils dans mon quotidien ? Donc, je pense que ça, c'est l'awareness plus général. Et après, voilà, cette idée un peu de test and learn par métier, sous-métier, catégorie. Mais encore une fois, je pense que c'est maintenant et qu'il faut que tout le monde se pose la question, quelle que soit la fonction. Et voilà, il n'y a pas que la fonction financière qui est concernée.
Est-ce que tu veux répondre ? Tu m'avais proposé sur le métier de la consolidation, a priori menacé, vous confirmez ? Que tu veux répondre
Alors, en fait, je pense que plus généralement, hein, c'est aussi ce que Paul disait, je pense que tous les métiers de la fonction finance dans leur ensemble, voilà, ce qu'on disait, c'est qu'ils ont des opportunités d'évolution liées à l'arrivée de la Gen IA et qu'il faut effectivement repenser certains métiers. Si on prend plus spécifiquement tout ce qui est consolidation et reporting, qu'on imagine effectivement, c'est que l'IA va nous permettre de générer des rapports de consolidation avec des modèles prédictifs beaucoup plus peut-être poussés que ce qu'on est capable de faire humainement parlant, je dirais ça comme ça. Ce qui veut dire que, un petit peu comme tous les métiers, c'est ça me facilite les choses sur la consolidation des données, l'analyse, enfin, la consolidation, je dirais surtout des données. Par contre, le collaborateur, lui, son rôle, ça va être plutôt de se concentrer sur l'anticipation, et là, si je reprends l'exemple du sujet conso, l'anticipation des fluctuations économiques et réglementaires, et comment finalement j'interprète toutes ces données de prédiction qui sont générées par l'IA pour faire les bons choix et pour bien finalement conseiller mes dirigeants. Donc, je pense que c'est, quel que soit le métier, on a ça. Donc, je ne pense pas que la conso soit plus impactée que d'autres filières de la fonction finance. Mais c'est ce sujet de, oui, il faut l'intégrer, et donc comment je repositionne et effectivement comment je développe les bonnes compétences auprès de mes équipes.
Ok, très bien. Quid du marché de l'emploi actuel ? Parce que tu as dit, Paul, que, non, c'était Raphaël d'ailleurs, qu'il y avait une focalisation sur le fait de former avant tout les collaborateurs plutôt que de recruter de l'externe. Est-ce que ça veut dire finalement qu'on va avoir potentiellement des personnes qui vont rester dans leur poste, et la manière avec laquelle ça a été tourné, c'est la tendance va-t-elle se retourner, rendant plus difficile de changer de poste et donc risque accru de conserver des salariés démotivés. Bon, c'est un peu négatif, mais est-ce que finalement il va y avoir un marché de l'emploi qui sera un peu moins fluide et on va avoir des personnes qui vont davantage rester dans leur poste ?
Je peux prendre ce point-là. En fait, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Ce qui est intéressant, c'est que cette question l'IA arrive en même temps. Raphaël a parlé du quiet quitting, qui est finalement le fait de dire je reste en poste, je me bats pas dans mon quotidien pour être super performant, mais je fais le minimum syndical, qui est notre fameux quiet quitting. Ce phénomène-là, en fait, il montre qu'il y a un désengagement et une dépriorisation de la place du travail dans la vie des individus. Ça, c'est indéniable. Hein. Enfin, en 10 ans, ça a changé complètement. Le travail a changé de place. En même temps que ça, on a l'IA qui intervient pour venir automatiser certaines tâches. Et donc, en fait, les salariés s'en emparent pour déplacer les tâches qui deviennent chronophages. Mais en fait, ce qu'on se rend compte dans toutes les études, notamment sociologiques, c'est que la curiosité des salariés pour apprendre et développer de nouvelles compétences, au contraire, elle, continue à augmenter. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les entreprises en formant davantage les salariés, en leur donnant davantage de perspectives et d'évolution, vont au contraire permettre de réengager une partie des salariés qui, du coup, vont retrouver du plaisir et de l'excitation. Et ça, pas conceptuel, c'est juste que c'est quelque chose qu'on a observé chez un grand nombre de nos clients. C'est des salariés qui étaient extrêmement démotivés dans un métier, en performance moyenne, voire faible, et en les mettant dans un autre environnement, dans un autre écosystème, sur des missions différentes, se révéler complètement et être en grand succès. Et donc ça, je pense que c'est plutôt ça qu'on doit aller chercher. Et le marché du travail, le point clé, c'est que les compétences devenant de plus en plus rares sur le marché parce qu'elles deviennent obsolètes plus vite, de toute façon, les entreprises vont devoir les créer en interne. C'est la raison pour laquelle la formation continue ou ces fameuses entreprises apprenantes devient de plus en plus important. Parce que juste les compétences n'existent pas encore sur le marché ou pas en nombre suffisant pour voir les besoins des entreprises, quoi qu'il arrive.
Merci. Peut-être une dernière question et puis on fait un wrap-up. Une question autour de c'est très intéressant, merci. En revanche, le management est encore sceptique. Bon, c'est son point de vue. Comment convaincre le management des apports bénéfiques de l'IA? Est-il possible de déployer des business cases rapidement? Donc là, on rentre dans quelque chose de très concret.
Alors moi je dirais.
Ah là, vous savez. Ouais. Ah, vous avez pas répondre pour répondre ensemble. Ouais.
Ben, je pense que la clé, c'est que le management comprenne aussi pour lui comment l'IA. Peut lui permettre d'être plus performant et peut l'aider dans son propre métier et comment finalement il va retirer du fait que ses collaborateurs utilisent l'IA, enfin ça va participer à sa propre performance. Ouais, ce serait peut-être ça mon élément de réponse, mais Paul, je te laisse compléter. Si
t'as... Non, je pense qu'il y a un enjeu effectivement, c'est-à-dire qu'il faut pour convaincre le management, il y a une approche concrète, c'est l'alignement d'intérêts et notamment la héroïsation de ces projets. Nous, ce qu'on a pu voir, c'est que les projets d'introduction de l'IA font bénéficier d'un ROI extrêmement rapide. Aujourd'hui, on voit, notamment, je pense à dans des grands groupes, c'est souvent assez rare de voir des projets dont le ROI se trouve tangible en moins d'un an. Et là, on voit que ça fait partie des exemples. Donc, concrètement, comment déployer des cas d'usage concrets? Je vous donne un exemple très simple. C'est, par exemple, il existe en mettant en place ces fameux Copilot, je pense à Microsoft Copilot ou d'autres, mettre en place ces fameux copilotes qui permet déjà de mettre un environnement sécurisé de partage des informations. Et un des exemples de cas d'usage, c'est de se dire je prends ce système pour faire de la projection et de la modélisation financière, par exemple. Donc je mets un certain nombre de données, le système va me proposer plusieurs scénarios par rapport à des tendances ou à des axes stratégiques qui ont été définis par le management. Et ça permet de montrer des résultats extrêmement tangibles, extrêmement rapides d'utilisation de l'IA. Ça, c'est des exemples qui sont souvent assez marquants, assez bluffants à montrer à un management pour faciliter la prise de conscience en disant « Ok, l'impact est fort et on doit investir dessus parce que ça automatise même des tâches qui nous semblaient complexes à opérer. » Voilà un exemple un peu concret. Et la première action, c'est de mettre en place un environnement sécurisé.
Ok. Merci, Paul. Tu utilises d'ailleurs aussi l'IA au sein de NeoBrain, je crois, dans la relation avec les investisseurs aussi. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais c'est aussi un use case.
Effectivement, en deux mots là-dessus, on s'est rendu compte que nos investisseurs, on a quatre fonds d'investissement au capital, parce qu'on a levé 23 millions en deux ans, et on s'est rendu compte que forcément, en investissant 23 millions, on pose beaucoup de questions sur la gestion, sur les opérations. Donc, on a construit ce qu'on appelle Boardroom Insight, qui est une sorte de version équivalent de ChatGPT, qui est entraînée sur la base de tous nos reporting et de toutes nos données financières, et qui permet à nos investisseurs, en toute transparence, de pouvoir poser des questions. Le système va synthétiser des réponses pour comprendre quel est le lien entre quel est notre taux de marge aux États-Unis par rapport à l'Allemagne, par exemple. Hein. Et donc ça, c'est des exemples concrets. On peut simplifier même la relation avec nos investisseurs. Et donc, oui, le management est impacté par l'IA, quoi qu'il arrive. Donc, ce type de cas d'usage permet d'en prendre conscience.
Petit bilan, quoi retenir de cette heure ensemble? Il nous reste 1 minute 30. Je vous donne la main.
Une alternance avec Raphaël. Premier message à retenir, c'est de vous impliquer personnellement dans l'IA et de passer du temps à explorer. Alors, ma recommandation, c'est de passer au moins 1 à 2 heures par semaine bloquées pour juste tester les IA qui ressortent sur le marché. Et un exemple pour vous marquer, la troisième IA la plus utilisée dans le monde, c'est Caractère.ai. Je pense que peu de gens ici la connaissent. Et donc pourtant, ça vous permet par exemple de parler avec Napoléon. C'était entraîné sur les bases de personnages historiques. Donc, tout ça pour vous montrer qu'il existe des IA qui sortent tous les jours avec des cas d'usage de plus en plus variés. Et je vous recommande de passer du temps chaque semaine à le tester pour éviter pour bien maîtriser en fait ce qu'il est en train de faire et comment la technologie évolue. Raphaël.
Très rapidement, et donc l'IA, je pense qu'on est tous convaincus que oui, mais effectivement, on a mis oui, mais par étapes. Donc, on l'a dit aussi, important de faire les choses adaptées aussi aux besoins de vos équipes. Donc, quel est finalement le niveau de maturité de vos équipes par rapport à ce sujet? Quels sont les cas d'usage prioritaires sur lesquels on peut se poser la question effectivement du ROI? Et donc, on se dit que ça vaut le coup d'y aller. Et puis, ce message de dire qu'effectivement, l'objectif, ce n'est pas de moins travailler, mais finalement de travailler différemment et d'intégrer l'IA dans les habitudes du quotidien et dans les routines des collaborateurs.
Le troisième, c'est que l'IA va simplifier l'écosystème d'outils, notamment avec ses copilotes qui viennent surfacer en fait, un certain nombre d'outils. Et je pense notamment à l'exemple concret de PwC aux États-Unis et au Mexique, en l'occurrence, qui a remplacé 70% de ses outils internes avec un copilote qui permet de manière conversationnelle de dire, par exemple, tiens, je cherche un auditeur spécialisé en carve-out dans le luxe et le système me fait une shortlist de candidats. Et tout ça se fait de manière conversationnelle plutôt que de devoir aller dans un outil comme Workday ou d'autres, aller chercher des données. Donc voilà des exemples de simplification de l'écosystème.
Quatrième message, la transformation ne vient pas que d'en haut. Alors même si on a dit qu'effectivement le management avait un rôle clé et qu'il fallait qu'il soit aussi embarqué, comme on est effectivement sur un nouveau sujet, clairement, il faut aussi faire confiance aux collaborateurs et leur donner l'opportunité de tester, d'essayer, de s'exprimer et de proposer et de voir finalement comment l'IA peut s'intégrer dans leur propre routine, leur propre métier et que ça vienne aussi de la base. Donc écoutez vos collaborateurs aussi sur ce sujet. Et ça ne pourra que vous aider globalement et collectivement à trouver les bonnes applications de l'IA dans les métiers.
Et enfin, cinquième message, déplacer les risques perçus de l'IA. La réalité, c'est que le plus grand risque n'est pas que l'IA nous remplace, mais que quelqu'un qui maîtrise l'IA nous remplace si on ne maîtrise pas l'IA. Donc, encore une fois, ça revient à mon premier message. Passez-y du temps, apprenez à maîtriser comment l'IA fonctionne. Et c'est vraiment l'enjeu clé, pour la résilience à la fois des entreprises, mais aussi des individus et des compétences, qu'ils possèdent.
Super, merci, merci beaucoup, merci à vous deux. Ce webinaire est terminé. On m'a demandé de vous dire aussi, vous allez avoir un petit sondage pour savoir quelle était votre satisfaction autour de ce webinaire, si vous pouvez prendre le temps de répondre. Et c'est maintenant votre avis sur les interventions. Voilà, je pense qu'on a bien clos. Raphaël, tu as rendez-vous à 10h30, tu as 2 minutes de retard, désolé pour ça, mais c'était super, merci beaucoup.
Merci à tous pour votre participation.
Merci beaucoup.
Passez une bonne journée.
Bonne journée. Au revoir.
Au revoir, merci.